Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Srila Prabhupada ki
jai. Jai.
Alors, on va commencer. Virginie, est-ce que tu voudrais lire, s'il te plaît?
Oui, Hare Krishna. Alors, les exemples sont nombreux. Alors, pour Ananda, on est à la page 120, ligne 21.
Parfait, merci.
Les exemples sont nombreux. Prahlada Maharaj, lui, a vu Krishna depuis le pilier. Il y avait... C'est une longue histoire. Je la raconterai une autre fois. Ainsi, Dieu peut se manifester de n'importe où et partout, car il est présent partout. Mais il faut être qualifié pour le voir. Il faut être qualifié. Si je suis suffisamment qualifié, Premanjana, Chaturita Bhakti Vilochanena, Brahmasamhita 5.38, j'adore Govinda, le Seigneur originel, qu'on nomme Siamasundara. Il est Krishna, lui-même et ses innombrables attributs restent inconcevables. C'est lui que voient au tréfonds de leur cœur les purs bhaktas, dont les yeux sont oints du baume de l'amour et de la dévotion. Si j'ai développé une telle conscience, un tel amour, un amour transcendantal pour Dieu, alors je peux le voir partout et n'importe où sur une image, une statue. Pause. Qu'il s'agisse d'une statue ou sans représentation en moi-même, dans l'air, dans l'eau, partout je peux le voir. Tel est le processus. Il donne ici un bel exemple. Yata Kashya Shito Nityam Vyayu Sarvatra Gomahan Tata Sarvani Bhutani Mat Staniti Upada Raya Bhagavad Gita 9.6. Tout comme le vent puissant qui souffle dans toutes les directions réside en permanence dans le ciel, comprends qu'en moi résident tous les êtres créés. Il dit Yata Akasa Sitat Nityam Vayu. L'air est situé dans le ciel. Tout le monde le sait que l'air va et vient ou souffle dans le ciel. Et Nityam Vayu Sarvatrago Mahan. Et il souffle partout. Vous ne pouvez pas trouver d'endroit où il n'y a pas d'air. Si vous voulez chasser l'air, alors vous devez le faire à l'aide d'une machine. Créer un vide bien étanche. Sinon, l'air est partout. Yata Kasha Sito Nityam Vayu Sarvatra Go Mahan. De même que l'air est répandu partout, n'importe où de même. Taha Sarvani Bhutani Mat Satani Sata Sat Niti Upadaraya. De même, tout ce qui est là, qui existe, c'est en moi. C'est en moi. Sarva Bhutani Konteya Prakritim Yanti Mamikam. Et lorsque cette manifestation, la manifestation matérielle, est dissoute, alors où a-t-elle lieu? Où s'en va-t-elle? Il dit Sarva Bhutani Konteya Prakritim Yanti Mamikam. Ma prakriti, ma nature est manifestée, et lorsque le temps est terminé, cette nature est résorbée. Et kalpa chiaye punastani kalpa kalpado vishri jami aham. De cette façon, à un certain intervalle, cette manifestation matérielle est déployée et à son tour, elle est résorbée. Cette manifestation matérielle est, parfois elle est créée et parfois elle retombe dans le corps du Seigneur. Mais la création spirituelle n'est pas comme cela. La création spirituelle est permanente. Dans la création matérielle, tout est temporaire, non permanent, tout comme ce corps. Ce corps est créé. Et prenez par exemple, quant à notre moi véritable, nous sommes une étincelle spirituelle, un infime fragment du Seigneur. Nous avons plusieurs fois discuté de ce point, que nous sommes tous des étincelles spirituelles, d'infimes fragments du Seigneur suprême. De la même façon que nous créons notre corps et qu'il est détruit. Et comme je crée mon corps et qu'il prend fin à nouveau, c'est un fait. J'ai créé ce corps, vous avez créé votre corps, vous êtes une petite particule, une portion spirituelle atomique. Et lorsque vous êtes mis dans le ventre de votre mère, vous obtenez votre corps et vous vous développez. On parle de développement. Tout se développe de cette façon. De même, lorsque nous développons notre propre corps, à moins que l'étincelle spirituelle ne soit présente dans le corps ne se développera pas. Nous avons donné cet exemple plusieurs fois. La naissance d'un enfant, si l'enfant est mort-né, non, il ne se développera pas. Mais s'il a de la vie, si l'étincelle spirituelle est présente, l'enfant grandira jusqu'à ce qu'il devienne un homme. De la même manière, l'univers entier, la manifestation matérielle dans son ensemble, ne tient son existence, je veux dire, que dû à la présence du Seigneur suprême. De la même façon, nous avons notre présence spirituelle en ce corps. Cet univers contient également le nom, le représentant de Dieu en tant que le Param Atma, Chirodakasai Vishnu. Nous détenons cette connaissance. En raison de sa présence, l'existence matérielle s'ensuit. Au même titre qu'en raison de ma présence, le corps existe et dès que j'aurai quitté ce corps, le corps ne servira plus à rien. De même, cette manifestation matérielle est due à la présence de Dieu. Sinon, cette existence n'existe pas. Donc, parfois il se manifeste et parfois il ne le fait pas. C'est ce qui se passe. Sarva Bhutani Kaunteya Prakritim Yanti Mamikam Bhagavad Gita 9.7. À la fin d'un cycle d'âge, au fils de Kunti, toutes les manifestations matérielles rentrent en la nature cosmique qui est mienne. Et au début du suivant, en vertu de ma puissance, je les recrée toutes. De même, je résorbe le tout. Elles retournent à moi. Kalpa Chiaye Punastani Kalpado Vishrijami Aham. Puis, après certains intervalles, lorsque à nouveau, kalpa, chaque création est appelée un kalpa. Kalpanta, satina, gunaha, chaque création est appelée un kalpa. Il y a donc de nombreux kalpas. Nous ne pouvons pas calculer l'âge d'un kalpa. La Bhagavad Gita nous donne un indice quant à la durée d'un kalpa à partir d'un jour de Brahma, à savoir, Shashra Yuga Pariyatam Ahar Yad Brahmano Vidu Bhagavad Gita 8.17. À l'échelle humaine, un jour de Brahma équivaut à 1000 des différents âges et autant sa nuit. 400 000 443 cent milliers d'années multipliées par 1000, cela fait un jour de Brahma. De même, il vit pendant 100 ans. Et après chaque centaine d'années, le kalpa est terminé. Et à nouveau, un autre kalpa commence. Tel est le calcul tiré de la littérature védique.
Ouais.
Pause.
Merci beaucoup.
Merci.
Om Gyanat Mirandasya Gananjana Sanakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Srila Prabhupada ki jai. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
J'en aurais une.
Oui.
Tout qui existe, Dieu il est partout, il est partout. Tout est Dieu partout, il n'y a rien qui n'est pas Dieu. Si moi je veux me voir, je devant un miroir, faut que je recule pour me voir. Alors, si Dieu il est partout, comment qu'il peut se connaître et se voir? Alors, Dieu ne se connaît pas d'un côté. Il se connaît à travers nos yeux, à travers sa création.
OK. Non, non. un moment. C'est impossible que Dieu ne se connaisse pas. Ça, c'est sûr. Parce que Dieu est omniscient, il connaît tout.
S'il se connaît, il est limité. S'il est illimité, il peut pas se connaître tout.
Il est pas limité. Ça, c'est sûr. Il est illimité. Alors, quelqu'un peut connaître jusqu'à un certain point Krishna. Et c'est tout. Et Krishna lui-même est infini, alors oui, tu fais un point qui peut pas se connaître, mais en fait, il se connaît. Sinon, par exemple, à quoi ça sert pour Krishna de dénoncer la Bhagavad Gita? Parce que dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, il connaît tout du passé, du présent et du futur. Puis il connaît aussi quand il a énoncé la Bhagavad Gita au Deva du Soleil, Vivasvan, qui lui, Vivasvan, l'enseignait à son fils, et lui encore l'enseignait à son fils. Et ainsi de suite. Et Prabhupada dit, Krishna, il est conscient de tout ce qui se passe dans l'univers. Dans le moindre raccoin, Krishna, il sait qu'est-ce qui se passe. Alors, Krishna est omniscient. Alors, si nous, on se connaît un petit peu, ben, que faut-il dire de Krishna? Krishna, il doit se connaître. Mais on ne peut pas concevoir l'étendue de la connaissance de Krishna non plus, parce qu'on est infinitésimal. Et on ne peut pas dire que Krishna ne se connaît pas. Krishna, c'est sûr qu'il doit se connaître. Alors, les écrits... Attends un petit moment. Les écrits védiques, c'est simplement une explication, que, comme c'est dit dans la Bhagavad Gita, au chapitre 15, verset 15, que Krishna, en fait, est l'objet de la connaissance. Alors, tout ce qui existe, c'est une émanation, une énergie de Krishna. Alors, c'est sûr que Krishna doit se connaître aussi. Vas-y donc, t'as une question?
J'ai oublié. Elle a passé,
elle va revenir. OK, il y a quelqu'un là. Un petit moment. C'est bizarre, il y a quelqu'un qui essaye de joindre le cours, mais ça marche pas son affaire. Bon, anyway. Alors, aujourd'hui, dans le cours, la lecture que nous avons eue, et puis la lecture qu'on va continuer d'avoir, ça, en fait, on peut pas spéculer sur le sujet. Et je dis pas que quelqu'un spécule entre nous, là. C'est pas ça que je dis, là. On ne peut pas spéculer dans le sens que il faut simplement accepter les descriptions qui sont données. Alors, ça nous dépasse complètement. C'est au-delà de la perception de nos sens. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on peut pas spéculer, on peut pas argumenter. Comme par exemple, ici c'est expliqué une journée de Brahma, combien long que c'est, et une nuit de Brahma, combien long que c'est aussi. Et une journée, c'est 1000 fois un kalpa, et un kalpa, c'est les 4 âges que nous connaissons, que nous avons appris à connaître, le Satya Yuga, le Treta Yuga, Dvapara Yuga, Kali Yuga. Il y en a 4 en tout. Alors, un cycle multiplié par 1000, ça c'est un kalpa. Puis 1000 kalpas, c'est une journée de Brahma. Et la nuit de Brahma, c'est autant de kalpa aussi. C'est la même durée. Alors, ça peut nous donner une idée dans quoi on est situé dans le monde matériel. On n'a pas d'idée, si on est laissé à nous-mêmes, on est comme on n'a pas de capacité de savoir qu'est-ce qui nous dépasse. On est trop, disons, accaparé par la perception immédiate de nos sens, où on est séduit par ce qu'on veut bien nous donner comme instruction mondaine de l'histoire, par exemple. Quand on va à l'école, là, que ce soit l'école primaire, secondaire ou universitaire, il y a une place pour l'histoire. L'histoire humaine, donc, il nous dit, il y a une histoire, mettons, l'histoire du Canada, l'histoire de la France, peu importe le pays, vous allez être, il y a une histoire qui est liée au pays. Alors, ce sont on peut dire, des petites connaissances. Mais là, ici, les Védas, la Brahma Samhita en particulier, est très instructive parce que c'est à l'échelle de l'univers dont il est question. Alors, qu'est-ce que ça peut nous aider, disons, quelle réaction ça peut causer chez nous, avec nous, ce genre de connaissance-là? La question est posée.
La grandeur de Krishna, qu'on est limité.
Exactement. La grandeur de Krishna, on est limité. Et aussi, ça nous donne une description de l'endroit dans lequel on se trouve. Comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, le monde matériel, c'est un endroit de souffrance. C'est un endroit qui est temporaire et de souffrance. Ça, c'est Krishna qui dit ça dans Bhagavad Gita. Alors, si Krishna nous dit ça, c'est parce que c'est important. Krishna ne nous dirait pas quelque chose qui n'est pas important ou qui n'est pas justifié de dire. Alors, si Krishna le dit, c'est parce que c'est important pour nous de comprendre le message. Alors, ultimement, quel est l'enjeu en question? Qu'est-ce que Krishna, disons, quelle serait la raison que Krishna nous donne cette connaissance au niveau de la création matérielle? Ce serait quoi la raison?
Qu'on puisse retrouver notre véritable nature qui est de servir Krishna et d'être un dévot. Qu'on n'est pas soumis à l'énergie matérielle qui est l'illusion, mais que nous sommes des serviteurs de Dieu, la personne suprême.
Oui.
Donc, retrouver par le biais justement des, comme tu disais tout à l'heure, les Védas, ce sont les clés. Ce sont ces clés qui nous sont livrées pour qu'on puisse retrouver le chemin.
Exactement. Tout ça, c'est bon. Mais le plus difficile, Krishna nous dit ça pour que nous ayons un désir de retourner à lui dans le royaume spirituel. Ça, c'est la raison.
Okay.
Krishna ne veut pas que l'on reste dans ce monde matériel qui, pour l'âme spirituelle, il n'y a rien à faire ici. La seule raison d'être dans le monde matériel, c'est que quelqu'un veut mener une vie qui n'est pas consciente de Krishna. C'est un endroit où l'oubli de Krishna est prédominant. Il y a de mille et une distractions parce que quelqu'un veut oublier Krishna. Mais dans le monde spirituel, Krishna est présent personnellement. Tout ce qui existe dans le monde spirituel, c'est conscient de Krishna. Et tout est centré sur le plaisir de Krishna. Et dans le monde matériel, tout est centré sur le plaisir des individus qui s'y trouvent. C'est complètement différent.
Égo.
C'est ça. C'est le royaume de l'égoïsme. Alors Krishna le sait, ça. Alors il vient en personne, nous démontre ses divertissements pour nous attirer à lui, qu'on développe un attachement pour lui. Et dans ses divertissements, Krishna a ses compagnons éternels et il nous montre qu'il peut y avoir différentes relations avec lui et que Krishna satisfait les désirs de tous les dévots. Comme on a dit au dernier cours, Krishna, il apparaît dans la forme qu'un dévot le veut d'apparaître. Alors, il y a des dévots, par exemple, de Ramachandra, Seigneur Ramachandra, c'est Krishna lui-même, mais dans une autre forme. Et il a ses dévots. Et comme c'est dit dans le livre de Krishna, Krishna a des demoiselles de Vraja, qu'on appelle les gopis. Krishna a ses gopis. Et Balaram aussi a ses gopis. Alors, il y en a qui sont plus attirés par Balaram que Krishna, mais c'est Krishna pareil. Alors, pour nous, ce qui est important, c'est de comprendre que tout dans l'univers matériel est absolument contrôlé. C'est sous le contrôle de Dieu, la personne suprême. Et, comme Krishna explique dans la Bhagavad Gita, au chapitre 16 de la Bhagavad Gita, qui est intitulé « Nature divine et démoniaque », si je me souviens bien. Alors, il explique la vision des êtres démoniaques, c'est qu'ils pensent qu'il n'y a pas de Dieu en contrôle. Alors quelqu'un peut dire, wow, c'est un peu fort de dire des êtres démoniaques, puis ensuite revenir sur faire deux, trois pas en arrière, puis regarder dans la société. Ben oui, mais il y a les scientifiques qui ont toutes sortes de théories, qui ont toutes sortes d'inventions à leur compte, etc., et qui sont supposés ou qui sont en train de façonner le futur pour les hommes. Mais à la base même de leur poursuite de connaissances, il y a une approche qui est vraiment athée. Ils n'acceptent pas qu'il y a un Dieu. Alors, il faut qu'ils prouvent tout, basé sur la perception de leur sens. Alors, quand on lit ici, mettons, si on avait invité 4-5 scientifiques, disons bien formés professionnellement, ils nous diraient que le cours d'aujourd'hui, nous, on ne croit pas à ça. Est-ce qu'il y aurait des chances que ça se passe comme ça? Ou il dirait, nous, dans les cercles scientifiques, on n'accepte pas ça. Peut-être que c'est vrai, mais nous, on ne l'accepte pas.
Non, je pense qu'il dirait vraiment que on est des rêveurs, en fait. Voilà. Pour l'avoir déjà vécu, on plane, on n'est pas concret.
OK, c'est une autre façon de le dire.
Voilà. C'est pas la réalité. Et d'ailleurs, j'ai lu un commentaire de Srila Prabhupada qui disait que cette illusion maya, elle est monstrueuse parce que justement, elle fait croire qu'on est dans la réalité. Et c'est exactement le gros problème qu'on a avec les scientifiques ou les philosophes aussi athées.
Ouais. Ouais.
Je les vois comme des commerciaux de savon à télévision. Il y a toujours meilleur, il y a toujours un meilleur savon plus tard. Il y a toujours meilleur. Alors les scientifiques, il y a toujours quelque chose de nouveau, meilleur. Alors ils ne sont pas dans la réalité. S'il y a toujours un mouvement meilleur, ça veut dire qu'ils cherchent.
Oui, ils cherchent. Ce qui est aberrant, c'est que, comme Prabhupada décrit ça aussi, je pense c'est dans Easy Journey to Other Planets, que les savants sont très fiers de leur connaissance. Et si tu veux aller sur d'autres planètes, pourquoi ils ne perçoivent pas? Ils le perçoivent dans une certaine mesure, mais ils vont pas vraiment l'admettre. Qu'en fait, c'est une cause perdue. Parce que peu importe où tu vas aller, il y a la naissance, la maladie, la vieillesse, la mort. Il y a du danger à chaque pas. Alors, ça donne quoi de faire ces tentatives d'aller sur d'autres planètes, voir qu'est-ce qui se passe? Parce que ça va être du pareil au même. Et Prabhupada, hier, j'écoutais une classe, justement, hier ou avant-hier, Prabhupada qui dit, tu peux pas aller de force sur une autre planète. Il dit, sur cette planète-ci, pour aller en quelque part, dans un autre pays, par exemple, ça prend un visa, ça prend un passeport. Tu peux pas juste entrer où ce que tu veux. Alors, il dit, c'est la même chose, aller sur d'autres planètes. Tu peux pas y aller et t'imposer, ah, moi, je veux venir ici. Tu vois, c'est comme si on écoute les scientifiques. Ils vont aller, mettons, sur Mars, ou ils vont aller sur la Lune, qui disent qu'ils ont été, mais qu'ils n'ont jamais été sur la Lune. Dans la même classe de Prabhupada, Prabhupada explique, selon les écrits védiques, la Lune est à 200 000 milles au-dessus du Soleil. Puis là, ensuite, Prabhupada faisait le calcul, il dit ça veut dire tant de milles. Ça joue dans les 400, 600, 1000. Et les scientifiques, quand ils disent qu'ils ont été sur la Lune, c'est à peu près 95 000. Alors, il y a une différence. Alors, Prabhupada dit, sur cette base-là, nous ne croyons pas qu'ils sont allés sur la Lune. Et en plus, c'est dit, Prabhupada explique, que la Lune est une planète édénique aussi. Alors, de là, Prabhupada dit, si t'es pas qualifié pour aller à cet endroit-là, ben, tu pourras pas y aller. Tu seras pas permis d'y aller. Alors, c'est quoi notre position quand on entend ça? Ben, vu qu'on est des personnes qui acceptent la voie de la culture védique, on doit accepter. Prabhupada l'a expliqué de telle façon, on doit accepter. Et de toute façon, comment pouvons-nous réfuter? On peut pas réfuter non plus parce que ça dépasse notre expérience sensorielle. Alors, on accepte sur la base des enseignements d'un maître spirituel, gourou, sadhu, Shastra, les autres personnes saintes et les écritures védiques. Voilà. Est-ce que d'autres questions ou commentaires? OK, on va continuer. Alors, Ananda, voudrais-tu lire, s'il te plaît?
Oui, avec plaisir. Et voici, on était bien là, c'est ça?
Oui.
Oui, parfait. Et voici la teneur et portée du verset de la Gita 8.17. Teneur et portée. La durée de l'univers matériel est limitée. Elle se répartit en cycles de kalpas. Chaque kalpa correspond à un jour de la vie de Brahma et compte 1000 cycles de 4 âges ou yuga. Le Satya Yuga, le Tetra Yuga, le Dvapara Yuga et le Kali Yuga. Le Satya Yuga, où règne la vertu, la sagesse et la religion, où l'ignorance et le vice sont quasiment inexistants, dure 1 728 000 ans. Le Tetra-Yuga, où le vice fait son apparition, dure 1 296 000 ans. Le Dvapara-Yuga, durant lequel la vertu et la religion déclinent encore tandis que le vice augmente, dure 864 000 ans. Et le Kali-Yuga, l'ère présente qui commença il y a 5000 ans, qui voit abonder les conflits, l'ignorance, l'irreligion et le vice, où la vraie vertu a pratiquement disparu, dure 432 000 ans. En cet âge, l'immoralité s'accroît à tel point que, lorsqu'il s'achève, le Seigneur suprême apparaît en personne sous la forme de l'Avatara Kalki pour vaincre les populations démoniaques, sauver ses dévots et instaurer un nouveau Satya-Yuga, puis le cycle reprend. Ces quatre yugas répétés 1000 fois forment une journée de la vie de Brahma, et chacune de ces nuits a une durée analogue. Brahma vit 100 ans, qui correspondent donc à 311 040 milliards de nos années terrestres, puis meurt. Toutefois, cette longévité formidable, pour nous presque infinie, ne représente qu'un bref éclair sur le plan de l'éternité. L'océan causal renferme d'innombrables Brahmas qui apparaissent et disparaissent comme des bulles dans l'Atlantique. Parce qu'ils appartiennent à l'univers matériel, Brahma et sa création connaissent un flux et un reflux continuel. Nul dans l'univers matériel, pas même Brahma, n'échappe à la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Cependant, du fait qu'il sert directement le Seigneur suprême en régissant l'univers, Brahma est immédiatement libéré après la mort. C'est sur sa planète Brahmaloka, qui est la plus évoluée de l'univers et qui survit même à la destruction des niveaux supérieurs du système planétaire, que vont les sannyasis avancer. Pour autant, de par les lois de la nature matérielle, ni Brahma ni les habitants de Brahmaloka n'échappent à la mort. Srila Prabhupada nous donne une macro-perspective à l'échelle de l'univers, voire à l'échelle de l'ensemble des univers manifestés qui subissent tous ultimement le même sort. Dans un cycle sans fin, réglé à la perfection sous la toute-puissance du Maître Tout-Puissant de tout ce qui existe. Qui osera encore être si prétentieux au point de se prendre pour Dieu?
Oh, merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Ça résume pas mal ce qu'on a dit quand même.
Oui, c'est en plein ça. Alors, si quelqu'un dit « je suis Dieu » ou il entend quelqu'un qui dit ça à de soi-disant disciples potentiels, si ce n'est pas déjà ses disciples, il y a un gros problème. Ça veut dire qu'il est vraiment ignorant. Comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Alors, on va continuer simplement. Vas-y, s'il te plaît, Ananda.
Parfait. 6.2. Durant cette longue nuit, tous les êtres continuent d'exister spirituellement, mais dans un état non manifesté, que l'on appelle avyakta, et que l'on retrouve également à la fin de la vie de Brahma. En ce qui a trait à tous les êtres conditionnés dans un univers comme tel, il y a deux occasions de non-manifestation nommées ici avyaktas. Une première à la fin d'un jour de Brahma et l'autre à la fin de la vie de Brahma. Les calculs de vie correspondants ont déjà été présentés au point précédent. 6.3. Il existe cependant, au-delà de ces deux états de non-manifestation, un troisième état où la matière n'est pas manifesté. C'est le monde spirituel, avec ses innombrables planètes éternelles, qui continuent d'exister même après l'anéantissement des planètes matérielles. Et voilà le sujet d'intérêt par excellence, le sujet auquel il faut prêter oreille le plus souvent possible afin d'en apprendre suffisamment sur son existence et développer ainsi un désir sincère de le rejoindre. Ces descriptions sont d'autant plus satisfaisantes après une étude parallèle du monde matériel à titre d'énergie du Seigneur suprême. L'idée étant telle que nous l'indiquent les enseignements de Srila Prabhupada dans ce module d'être suffisamment éclairé en termes de connaissances réalisées par le service de dévotion pour voir le Seigneur à travers son énergie, peu importe qu'elle soit dite matérielle ou purement spirituelle. Il faut faire preuve d'avancement spirituel pour en être à ce niveau-là. Tel est un échantillon de la vie que l'on dit pleine de connaissances et de félicité, où c'est le Seigneur qui se révèle ainsi à son dévot sincère, totalement serviable à sa volonté. Toute, pro- toute proportion gardée, que plus l'on gagne à s'absorber dans le spirituel, moins se fait sentir l'intérêt pour la matière. Cela se fait tout naturellement par la présence de Guru, par la grâce de Guru, de Krishna, et l'entourage immédiat des personnes saintes assemblées. ISKCON existe spécifiquement pour nous offrir l'opportunité de bénéficier de cette grâce divine dans son entièreté, moindrement que l'on sache l'apprécier. On trouve des descriptions du monde spirituel dans les littératures védiques telles la Brahma Samhita, la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, etc. Les livres de Srila Prabhupada tels que le Nectar de la Dévotion, le livre de Krishna, abondent en descriptions des activités du Seigneur en liaison avec ses dévots dans le monde spirituel. Le Seigneur vient sur terre pour y manifester ses mêmes divertissements en vue d'attirer l'attention des âmes conditionnées. Sans cette manifestation des divertissements personnels du Seigneur, comment les âmes conditionnées pourraient-elles en connaître l'existence, perdant ainsi à jamais l'unique façon viable et autorisée de fixer leur esprit sur la vérité absolue dans son aspect personnel de Bhagavan Sri Krishna, l'infiniment fascinant du fait de posséder à l'infini les six perfections, beauté, richesse, savoir, renommée, force et renoncement. Tout être conditionné venant en contact avec la vérité absolue, ne fût-ce que par vibration sonore absolue, retrouve sa nature spirituelle. Le Srimad Bhagavatam, chant 1, chapitre 2, verset 11, nous explique la nature absolue du Seigneur.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
J'avais une petite question sur celle qu'elle a lue avant. Les personnes qui sont diaboliques ou démoniaques, est-ce qu'ils viennent avec cet état d'esprit-là démoniaque? Puis souvent, ben, c'est du monde très placé, très bien placé pour faire beaucoup d'avancement spirituel. Pour arriver ici, être riche, avoir du pouvoir et tout ça. Mais est-ce que c'est du monde démoniaque qui ont évolué? Comment le démoniaque arrive à être démoniaque? Est-ce qu'il évolue dans la dépression?
Bon. La question est bonne. Alors, dans le monde matériel, tout est fait sous l'agencement des trois modes de la nature matérielle. Et aussi, tout est fait sous l'agencement de la loi du karma, qui veut que il y a comme un certain équilibre entre réaction pécheresse et réaction pieuse, disons, aux actions passées d'un individu. Et comme Prabhupada dit, dans le monde matériel, ça sera pas 100% malheureux, puis pas non plus 100% pieux, dans le sens, au point de vue des réactions. Alors, il va toujours avoir comme un mélange. C'est comme Prabhupada explique aussi, la vertu dans le monde matériel n'est jamais 100% pur. Il y a toujours une teinte de passion et d'ignorance tant aussi longtemps qu'on parle de vertu dans le monde matériel. Alors, Krishna va donner à qui il veut bien, selon son mérite. On a lu ça dans Ishopanishad, Prabhupada écrit ça. C'est quand Krishna récompense, c'est au mérite. Et non au désir de concupiscent de quelqu'un. Alors, quelqu'un peut avoir la beauté, la connaissance, la renommée, mais dans son cœur, il peut vraiment être démoniaque. Et c'est comme l'expression populaire le dit, l'habit ne fait pas le moine. Alors, les êtres conditionnés sont confrontés à un choix, à savoir choisir de servir Maya, l'énergie matérielle, ou de servir Krishna. Alors, qu'est-ce qui se passe si on sacre? Et c'est pourquoi c'est dit aussi dans le Srimad Bhagavatam au chapitre 5, verset 18-12, justement, que quelqu'un qui n'est pas un dévot de Krishna. Alors, le verset dit Arav Abhakta. Arav Abhaktasya Kuto Mahaguna. De quelqu'un qui n'est pas un bhakta ne peut pas avoir de bonnes qualités. Pourquoi? Parce qu'il est situé au niveau mental. Et au niveau sur le plan matériel, tout ce qui est fait ne dépasse pas le niveau mental. Tout ce qui est fait. Pour que ça dépasse le niveau mental, il faut que ça vienne au niveau de l'intelligence. Et au niveau de l'intelligence, tout de suite après, à côté, c'est l'âme spirituelle. Alors, ça prend de l'intelligence pour servir Krishna. Il faut vraiment utiliser son intelligence, une intelligence spirituelle. Et pour ça, ben, ça prend un maître spirituel pour l'expliquer, transmettre la connaissance spirituelle, puis ensuite, il faut agir en conséquence. Alors, si un dévot utilise son intelligence pour servir Krishna, qu'est-ce qui va arriver? Il va développer les bonnes qualités. Comme c'est expliqué, il développe les bonnes qualités des demi-dieux et les ce qui est à dériver, des produits dérivés, une façon de parler, non? Tout ce qui est religion, il va être conforme avec ça. Ça, c'est un dévot. Mais quelqu'un qui n'est pas dévot de Krishna, ne développera pas des bonnes qualités. Oui. Oui.
Un backtop et une personne démoniaque qui arrive tous les deux sur la même
plateforme. Ah, ça griche quand tu parles. On t'entend pas bien. Peux-tu répéter? Il y a un problème de son, là. On t'entend pas bien?
C'est la connexion ici.
Oui, c'est ça.
Je vous entends pas. Okay, là, je vous entends.
OK. Peux-tu recommencer? Alors,
qu'est-ce que je voulais dire, c'est... ça va être dur. Je vais revenir sur ça. Je vais... Ça coupe.
OK. Bon, ben garde ça aussitôt que c'est faisable. Fais-en nous part. OK. Alors, ça, on peut s'en réaliser dans la vie au quotidien que les gens qui sont pas plus spirituels qu'il ne faut, c'est au niveau mental, ils sont bloqués au niveau mental. Alors, ça leur donne des... Ils voient pas plus loin que leur mental. Évidemment, ils vont voir selon leur perception des sens, mais ça va pas aller plus loin que le mental. Et la vie humaine, c'est fait pour dépasser juste le niveau mental. C'est fait pour être plus intelligent que juste rester subjugué au niveau mental. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, on va continuer à lire.
De toute façon, si on ne dépasse pas le niveau mental, on n'a pas guère de différence avec les animaux, hein, c'est dans la façon de vivre, je pense. Puisque c'est quoi, ne pas dépasser le niveau mental, c'est juste se reproduire, se nourrir, se défendre, c'est un peu ça, non? Je pense.
C'est un peu ça et c'est même pire.
Oui.
C'est ça qui est dommage. Parce qu'un homme, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, un homme doit s'élever avec son mental et non se dégrader. Alors, et le mental, pour le maîtriser, il faut l'engager dans la conscience de Krishna, dans des pensées de Krishna, service offert à Dieu, la personne suprême. C'est la façon d'engager le mental pour faire quelque chose de bien avec sa vie.
Oui.
OK. Alors, on va continuer. Virginie, voudrais-tu lire? À la ligne 9, page 124.
Tu es muté. Ton micro est coupé.
Excusez-moi, pardon. Alors, ligne 9. Vadanti tat tatva vidas tatvam yaj gyanam advyam advayam brahmeti paramat meti bhagavan iti sabati sabadiate. Vadanti, ils disent tat cela, tatva vida, les âmes érudites, tatvam, la vérité absolue, yat, que, gyanam, connaissance, advayam, nom duel, brahma iti, connu sous le nom de brahman, paramatma iti, connu sous le nom de paramatma, bhagavan iti, connu sous le nom de bhagavan, sabdiate, ainsi entendu. Les doctes et sages spiritualistes qui connaissent la vérité absolue nomment cette substance unique au-delà de toute dualité du nom de Brahman, Paramatma ou Bhagavan. Teneur et portée. La vérité absolue est à la fois sujet et objet, les deux n'étant alors distingués par aucune différence d'ordre qualitatif. Par suite, le Brahman, le Paramatma et Bhagavan ne sont toujours dans l'ordre qualitatif qu'une seule et même vérité. Cette substance unique, la vérité absolue, est réalisée en tant que le Brahman impersonnel par ceux qui étudient les Upanishads, en tant que le Paramatma localisé pour les Hiranyagarbha ou yogis et en tant que Bhagavan pour les Bhaktas. Bhagavan, la personne suprême, le Seigneur souverain représente l'aspect ultime de cette vérité absolue. Le Paramatma constitue une manifestation partielle de cette vérité absolue. Non, une manifestation partielle du Seigneur suprême et le Brahman impersonnel forme l'éclat irradiant de son corps, comme les rayons qui émanent du corps du Dieu Soleil. Des étudiants d'intelligence partielle arguent parfois de la supériorité d'un aspect de la vérité absolue, celui qu'ils ont réalisé sur les autres. Les maîtres de la vérité absolue, qui en ont une vision parfaite, savent, eux, que ces trois aspects ne sont que divers angles de vision de l'unique substance. Comme on l'a vu dans le premier shloka du premier chapitre de cet ouvrage, la vérité suprême et absolue se suffit à elle-même, possède la connaissance parfaite et se trouve libre de toute illusion engendrée par le concept de la relativité. Dans le monde du relatif, le connaissant et le connu sont distincts. Au niveau de la vérité absolue, ils sont une seule et même chose. Dans le monde du relatif, le connaissant est l'âme spirituelle vivante appartenant à l'énergie supérieure et le connu est la matière inerte constituée d'énergie inférieure, dualité, donc entre énergie inférieure et supérieure. Au contraire, dans le royaume absolu, connaissant et connu participent. Ah, j'ai plus de texte. Qu'est-ce que ça me...
Voilà. C'est affiché, là.
Oui, mais je ne vois pas, c'est trop petit pour moi.
Ah, OK, on va l'agrandir.
T'as plus le texte en PDF?
Non, j'ai un problème, je crois, avec mon disque dur, là, tu vois. Ça. Ah. J'ai une page vierge. Je m'excuse.
OK, je vais continuer. Alors, il dit...
participe tous deux de l'énergie supérieure.
Ouais, c'est ça. Trois formes d'énergie émanent en fait de la source suprême. Il n'existe aucune différence fondamentale entre l'énergie et sa source. Mais on distingue néanmoins différentes qualités d'énergie. Le royaume absolu et les êtres vivants appartiennent tous deux à l'énergie supérieure, mais l'univers matériel est constitué d'énergie inférieure. Et lorsque l'être distinct entre au contact de l'énergie inférieure, il tombe sous le coup de l'illusion, laquelle lui fait croire qu'il appartient lui-même à l'énergie inférieure, d'où le concept de la relativité présent dans l'univers matériel. Mais dans l'absolu, aucun sentiment de distinction n'existe entre le connaissant et le connu, et par suite, tout y est absolu. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
On parle, le Seigneur, c'est de l'énergie au-delà de notre connaissance qu'on peut comprendre comment l'énergie. Alors, l'âme elle-même, quand elle vient à prendre vie dans un corps matériel sur la terre, c'est cette énergie qui donne, qui est l'âme, qui donne la vie. D'où qu'elle vient, cette énergie-là?
Ben, l'âme est éternelle.
C'est l'énergie. D'où qu'elle vient? Dans le corps, comment qu'elle fait pour venir dans le corps? De quel côté qu'elle apparaît? Comment elle s'est introduite? Comment qu'elle arrive sur la terre?
Ben, ça, c'est une bonne question et Prabhupada l'explique de différentes façons. Alors, comment elle arrive sur la terre? On va reculer d'un pas et on va dire comment elle arrive dans l'univers. Ou comment est-ce, et on recule encore, comment est-ce qu'elle arrive dans le monde matériel? Alors, Prabhupada explique que c'est le Seigneur, il explique, c'est le Seigneur qui pose son regard sur la nature matérielle et par son regard, il injecte les êtres vivants dans le monde matériel. Alors, comme Prabhupada explique, parce que Krishna, tous ses sens sont absolus et tous ses sens peuvent accomplir n'importe quelle fonction de tous les autres sens. Alors, et quand Krishna veut féconder, il n'est pas limité à la façon qu'un homme, si on peut dire qu'un mâle peut féconder une femelle. Pour lui, juste regarder, c'est équivalent à féconder. Alors, quand Krishna pose son regard sur la nature matérielle, il injecte tous les êtres vivants dans la nature matérielle. Ceci étant dit, Prabhupada donne une autre explication, à savoir que quand Krishna vient, il vient dans le monde matériel par le concours de ses émanations. Il y a des émanations qu'on appelle les Purusha Avatar, à savoir le premier Purusha Avatar qu'on appelle Karano Dakshayi Vishnu. Ça, c'est Mahavishnu. Des pores de peau de Mahavishnu et de sa respiration émanent des innombrables univers. Et ensuite, Krishna se multiplie. Il entre dans chaque univers sous la forme de Garbo Dakshayi Vishnu. Et il entre dans le cœur de chaque être vivant, tout ce qui vit, et même dans tous les atomes, et même entre les atomes, sous la forme de Kshiro Dakshayi Vishnu. Alors, comment un être vivant va passer d'un corps à un autre corps? Et l'être vivant qui est dans un corps matériel n'est pas tout seul dans ce corps matériel-là. Il est accompagné de l'âme suprême. Et l'âme suprême est témoin et consentante à toutes ses actions. Et lorsque le temps est venu, l'âme suprême, l'âme individuelle peut pas, excusez-moi, ne peut pas résister à la volonté de l'âme suprême. Alors, lorsque le temps est venu de quitter un corps, les deux quittent vers un autre corps, et ainsi de suite. On t'entend pas?
J'aurais quelque chose comme dans notre corps qu'on a en ce moment, il y a des milliards et des milliards d'autres cellules qui ont aussi des âmes. Donc, de chaque cellule.
On t'entend pas?
Allô? Vous attendez?
Oui.
Alors, notre corps humain, à l'intérieur, il y a des milliards de petites cellules et chaque cellule a une âme. Pour qu'elle ait de la vie, ça prend une âme, non? Tout ce qui vit, c'est l'âme qui donne la vie.
Oui.
Alors, tout ce qui vit autour de nous, on va dire les arbres, les anges, qu'est-ce qui donne la vie? C'est le soleil. Sans soleil, veut dire, il y a trois éléments qu'on trouve sur la terre, l'eau, l'air et la terre. Ces trois éléments, puis l'autre, c'est le soleil. Le soleil donne vie à tout ce qu'on voit, toutes les cellules dans un arbre, tout ça. Alors, dans la façon que je le conçois dans tout ce qu'on parle, c'est que nous, on mange la nourriture qui a de la vie dedans. Et cette vie-là va faire d'autres cellules, d'autres choses, et en même temps, ça va faire du sperme. Et dans ma façon, je le conçois, c'est que on vient du soleil. C'est-à-dire, l'âme, c'est comme une place, on prend un petit stop, là, puis on embarque sur un rayon parce qu'on voit pas l'âme. On est de la lumière pure, posément, là. Alors, on rentre dans les aliments, que les aliments sont mangés, puis la vie continue à travers de tout ça. Est-ce que ça se peut ou c'est vraiment de la grosse spéculation?
De prime abord, je peux dire, je suis pas expert dans ces choses-là. Et je trouve ça pas tellement d'importance de comprendre dans les moindres détails qu'est-ce qui peut bien se passer. C'est comme une fois, j'avais trois questions. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. J'avais trois questions pour Prabhupada. Puis finalement, au bout de la troisième, Prabhupada, il me dit, pourquoi tu te casses la tête avec toutes ces questions-là? Chante avec le Krishna. Alors, je me rappelle toujours de cette réponse de Srila Prabhupada. Alors, qu'est-ce qui est important? Disons, on peut donner une comparaison aussi, à savoir, la maison est en feu. Est-ce que je vais essayer de comprendre comment le feu est venu dans la maison ou qu'est-ce qui est le plus important? Ce qui est important, si la maison est en feu puis on est dans la maison.
Et se sauver.
C'est se sauver. Soit éteindre le feu ou se sauver, mais d'une façon ou d'une autre, c'est va-t'en de là parce qu'il y a beaucoup de dangers, là. Alors, c'est la même chose. L'existence matérielle, quelqu'un peut dire, ben oui, mais c'est intéressant si tu vas sur les planètes édéniques. Mais les problèmes sont partout les mêmes. Et la loi du karma fait que tout ce qui monte va descendre. Alors, tu peux être soi-disant dans une soi-disant bonne position un moment, puis quelques temps après, tu vas te retrouver dans des conditions de vie infernales. Et ça, c'est la réalité de la vie matérielle. Il n'y a rien qui est permanent. Aucune position n'est permanente. Alors, qu'est-ce qui est important? L'important, c'est de chanter les saints noms. être conscient de Krishna. Et comme on a lu aujourd'hui, on vient de le lire ça, attends une minute. C'est dit ici, on a lu ça tantôt, que Krishna, il est là sous forme de vibration sonore. Et juste la vibration sonore, c'est suffisant pour réaliser Krishna. Ça, c'est inconcevable.
C'est ça qui est en ce moment dans le dans la, les l'espace qu'on vit, le temps qu'on vit. Le monde sont très orientés vers les fréquences. Ils parlent beaucoup de fréquences. C'est une nouvelle chose qui vient de découvrir l'humanité, que tout c'est des fréquences. Puis souvent, pour introduire la conscience de Krishna, il faut embarquer dans leurs fréquences pour arriver à leur changer un peu leur façon de viser juste la fréquence et de voir que le Seigneur, c'est tout ça. Alors souvent, c'est de prendre leur vision et de c'est comme les arts martiaux, on prend l'énergie de l'autre pour dire quelque chose là, de d'aller contre eux autres. Alors c'est de prendre leur énergie, mais souvent, pour prendre leur énergie, il faut avoir la connaissance. Hein. Sinon, ils t'écoutent plus, là. C'est comme, c'est la nouvelle génération d'aujourd'hui. Ils parlent beaucoup de ça avec le yoga, méditation, ces affaires-là. Mais c'est un autre, c'est un autre monde. T'sais, ça a changé beaucoup de l'époque, veut dire, où quand Prabhupada était là. Veut dire, pas le contenu, la façon qu'ils en parlent, les mots qu'ils utilisent, leur vision, la nouvelle génération, la jeunesse. Qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école, puis qu'est-ce qu'ils connaissent aussi avec l'internet, tout ce qu'ils s'en vont avec tout ça. Alors, c'est comme un autre era, comme on dit ça, un autre ère.
Un autre ère, oui. Mais je pense que à un moment donné dans notre vie humaine, on arrive à un certain âge ou à une certaine étape qu'on se dit, c'est impossible to, je vais dire en anglais, c'est impossible to keep up, de rester au diapason de la génération qui est la plus jeune, parce qu'on a vieilli, on voit pas les choses de la même façon. Les priorités d'une personne plus âgée sont différentes d'un plus jeune. Alors, donnons un exemple. Un plus jeune, sa priorité, c'est de se faire un chemin dans la vie. Avoir un métier, gagner sa vie, ainsi de suite. Mais pour une personne qui est arrivée, mettons, à l'âge de la retraite, si ce n'est pas à la retraite tout court, les priorités sont différentes. Dans le sens que si on prend du point de vue védique, un homme est supposé prendre l'ordre du renoncement à 50 ans et plus pour justement donner la dernière portion de sa vie qui est estimée à peu près 25 ans au service de Krishna. Qui va faire ça? Ça, c'est une autre histoire. C'est pas tout le monde dans l'âge de Kali qui va être un renonçant. La majorité ne seront pas des renonçants. Mais ça veut pas dire que même s'ils sont encore mariés ou même s'ils sont célibataires aussi, que rendu à 60, 70, 80, c'est genre, tu dois te poser la question à savoir où est-ce que je m'en vais? Toi, un plus jeune, lui, c'est où est-ce que je m'en vais dans cette vie?
Le jeune aujourd'hui, il n'y a plus les mêmes opportunités que dans le temps que nous, on a vieilli. La vie, elle est vraiment changée différemment. Alors, c'est comme les préparer à accepter selon qu'est-ce que Dieu leur donne à vivre, que ça fait partie de leur karma, mais comment prendre cette cette expérience de vie et pas se déprimer dessus et de trouver le bonheur dedans. C'est de voir le Seigneur partout, de les commencer très jeunes. C'est pas les attendre qu'ils deviennent vieux puis sont déjà un gros tronc là, puis sont difficiles à bouger là. C'est dans la jeunesse.
Ouais, ça moi quand j'étais disons supposément dans notre temps, les années 70, quand j'ai joint le mouvement, on allait dans les cégeps ou les universités. Quand nous on appelait ça faire des engagements. On avait un dévot d'ILG qui appelait les universités ou les collèges pour nous trouver des opportunités d'aller dans les classes et parler aux faire des classes dans les classes d'étudiants. Alors il y avait Vishwambar à l'époque qui parlait aux étudiants, puis après questions et réponses comme on fait dans des classes régulières. C'est le même programme aujourd'hui, c'est la même chose. Dans le sens que c'est Shravanam Kirtanam. Écoutez au sujet de Krishna, parler de Krishna. Quand Prabhupada était là, personnellement, qui faisait des conférences, des classes, tout ça, les gens venaient le voir.
C'était nouveau dans ce temps-là. C'était très nouveau, tout ça. Mais aujourd'hui, on est bombardé de toutes sortes de différentes façons que Prabhupada a mis sur pied. Puis le monde, c'est des mauvaises voix, c'est comme des mauvais gourous. Ils sont vraiment dans un océan de tricherie. La majorité du monde, on vit en ce moment.
Oui, mais il y a un élément qui peut et qui va faire la différence. Et ça, cet élément-là, on l'appelle la grâce de Krishna. Oui. Alors, Krishna peut donner la grâce à quelqu'un de voir clair dans cet océan de tromperie et de fausseté. Krishna va donner intelligence. Et aussi, il y a une question de progrès spirituel accompli par quelqu'un. Si quelqu'un, dans sa vie antérieure, a déjà pratiqué le yoga, a déjà fait de l'avancement spirituel, dans cette vie-ci, il part pas à zéro, là. Alors, Krishna donne l'intelligence pour voir clair dans les faussetés. Et ça, c'est bon, c'était bon hier, c'est bon aujourd'hui, puis ça va être bon demain. Et Krishna le dit dans le Bhagavad Gita. Arjuna pose la question, qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui a commencé, mais qui n'a pas continué jusqu'à temps qu'il ait le succès? Alors, Krishna dit, il va prendre naissance dans une famille riche ou dans une famille de brahmins, puis il va être naturellement attiré par les principes du yoga et il va continuer. C'est Krishna qui dit ça. Alors, les principes du yoga, tu peux pas les changer vraiment. Alors, tout comme on vient de lire, à l'instant, on vient de lire aujourd'hui, tu vois, le verset là qu'on a lu, Srimad Bhagavatam 1, 2, verset 11, ça c'est un verset classique que Prabhupada cite maintes et maintes et maintes fois dans ses livres. Partout, ce verset-là revient, pratiquement parlant. La vérité absolue peut être réalisée en trois étapes, Brahman, Paramatma et Bhagavan. Ça peut pas changer, c'est absolu. Alors, par la grâce de Krishna, Krishna va faire en sorte que quelqu'un qui est vraiment sincère, ça aussi c'est un autre critère, ceux qui veulent quelque chose à bon marché, comme Prabhupada dit, les tricheurs et ceux qui sont trompés par les tricheurs. Krishna les connaît. Mais si quelqu'un est vraiment sincère, et comme Prabhupada dit, il y a seulement une qualification pour être conscient de Krishna, c'est la sincérité. Alors, pour une âme sincère, Krishna va le guider vers un maître spirituel authentique. Et à partir de là, selon le système que Krishna veut, qu'a établi Krishna, mais en fait, c'est un système complètement naturel. Il n'y a pas vraiment besoin de grande introduction pour ce système-là. À savoir, tu veux quelque chose, tu cherches quelque chose, et naturellement parlant, s'il y a quelqu'un d'authentique qui t'offre ce quelque chose-là, tu vas vouloir écouter au sujet de ce quelque chose, et à force de l'écouter moindrement, avec une ouverture d'esprit, tu vas l'accepter. Et ainsi fonctionne le système.
C'est de pas changer nécessairement la base fondamentale. C'est plutôt la façon qu'on l'introduit, les mots qu'on utilise pour arriver au même point.
Oui, mais c'est pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas tout le monde. Personne, je dirais, va le faire de la même façon. Et on peut pas penser que maintenant aujourd'hui c'est comme ça qu'il faut le dire. Parce que tout le monde est individuel et il faut que ça soit naturel aussi. Tu sais? Si par exemple je montre un exemple vraiment qui est pas le bon exemple. Un exemple, par exemple, de coercition. Vraiment régimenté, militaire. Voici nous autres, c'est la conscience de Krishna, apprendre ou à laisser. Ceux qui acceptent, mettez-vous à gauche. Ceux qui acceptent pas, mettez-vous à droite, puis on vous envoie dans un camp quelque part. Tu peux pas faire ça. C'est complètement ridicule. Il y a personne qui va accepter ça. Il faut que ça soit naturel. Comme Krishna dit, écoutez, ben, comme le service de dévotion préconise, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. C'est ça notre produit. Les 9 méthodes du service de dévotion. Alors, ça leur prend un petit peu d'intelligence pour accepter. Alors, les dévots, et Krishna donne l'intelligence aux dévots qui veulent prêcher pour passer le message. Alors, si on regarde, par exemple, la façon que Srila Bhaktisiddhanta présentait la conscience de Krishna, c'est pratiquement pour du monde très érudit. Pour du monde, Srila Bhaktisiddhanta était très, très avancé sur une plateforme pas mal haute. Mais, il dit à Prabhupada d'écrire en anglais, aller prêcher en Occident. Prabhupada obéit à l'instruction, mais il le fait avec des mots simples. Le style de Prabhupada Bhaktivedanta, puis le style de Prabhupada Bhaktisiddhanta, là, c'est pas pareil.
Le contenu est le même.
Le contenu est le même, mais lis les livres de Srila Bhaktisiddhanta, tu vas dire, je suis pas capable de comprendre ça. Le langage, c'est difficile. C'est pas facile. Mais tu lis les livres de Prabhupada, n'importe qui peut comprendre. Et c'est le même message. C'est la même vérité absolue, comme on a dit tantôt. Brahman, Paramatma, Bhagavan. C'est la même vérité absolue. Alors, ça dépend qui est qui. Tu sais, par exemple, chez les dévots, il y a des dévots qui sont, en tout cas dans le temps de Prabhupada, il y avait, lui, il est décédé maintenant, Damodar, là, le scientifique, le livre « La vie vient de la vie », c'est lui qui a écrit ça. Alors, Prabhupada, quand il parlait avec ce dévot-là, le message puis les entretiens étaient très scientifiques. Parce que si Prabhupada voulait causer scientifique avec un auditoire scientifique, il était bien capable de le faire. Mais Prabhupada parlait simplement avec du monde simple. Et en plus, Prabhupada est Shaktiavesh Avatar. Ça veut dire qu'il est mis en pouvoir pour accomplir une mission que Krishna lui a confiée, c'est-à-dire répandre la conscience de Krishna à travers le monde entier. Alors, il parle d'une façon que peu importe l'endroit dans le monde, si ses livres sont traduits et présentés fidèlement, ben le message va passer. Alors, dans le langage d'aujourd'hui, moi, je suis un dévot d'un certain nombre d'années dans le mouvement et je me casse pas la tête. Ça, c'est moi personnel. D'être à la hauteur du langage des jeunes d'aujourd'hui, parce que j'en fréquente pas de un. Je peux pas relater avec ça. Donc, si j'étais tout le temps avec des jeunes, peut-être je pourrais relater avec leur langage et tout, mais ce n'est pas le cas. Alors, je fais du mieux que je peux, basé sur l'expérience que j'ai, et c'est tout.
Chacun de nous, on est différentes fréquences, qu'on attire différentes fréquences. Alors, notre être, veut dire, attire du monde un certain niveau de pensée, parce qu'on est cette fréquence, puis on attire la même fréquence. Alors, personne n'est pareil.
Exactement.
Personne attire les mêmes mondes, ouais.
Exactement. Alors, comme Prabhupada dit souvent, faites de votre mieux et Krishna va vous aider. Alors, on fait de notre mieux. T'sais, c'est comme par exemple, quand j'étais quand j'étais plein temps dans le mouvement, ben, qu'est-ce que tu vas faire de tes jours? En fait, c'est pas ton nom personnel, là, tu suis le groupe, tu suis qu'est-ce que le leader du mouvement veut bien que tu fasses. Alors, les dévots vont chanter dans la rue, vont distribuer des livres. Tu as une prédication à faire. Et tu le fais du mieux que tu peux, selon tes circonstances et individus. Et de nos jours, je vois pas comment ça peut être différent. Tu sais, les dévots vont dans le métro, ils se mettent un petit tapis en quelque part, puis ils chantent. Il chante le Maha Mantra. Le Maha Mantra, je m'excuse là, mais c'est un langage qui parle directement à l'âme. C'est pas en anglais, c'est pas en français, c'est pas en allemand, c'est même pas bengali. C'est sanskrit. Et ça parle à l'âme. L'âme, elle va comprendre quelque chose, même si ça dans le mental ou dans le cerveau, ça a l'air que ça n'a pas cliqué. Mais l'âme, elle comprend, elle.
Il y en a beaucoup qui passent dans le métro, puis ça le touche même pas. Mais comment toucher ce monde-là que ça ne leur touche pas? Il faut casser la pierre autour de l'âme. Tu veux dire, elles sont dures.
Oui, mais justement, c'est comme, par exemple, prendre n'importe quelle publicité de savon à vaisselle. Ils vont te prendre un point long, bourré de graisse comme ça. Jamais ça arrive dans ta propre maison. Puis là, ils vont dire, ils mettent quelques gouttes de ce savon à vaisselle-là, ils passent un coup d'éponge, puis ça s'en va tout de suite, d'après la publicité. C'est un miracle, ce savon-là. Mettons du Dawn ou je sais pas, surtout Dawn. Alors, quand les dévots chantent, le Harinam Sankirtan, c'est imperceptible le bienfait que ça fait. On peut pas calculer. Tu sais, quand tu fais la distribution de livres, là, surtout dans des endroits où le passage des gens est pas mal international, mettons, tu vas dans un aéroport ou tu vas dans, mettons, à Paris, par exemple, quand on faisait dans le métro à Paris, tu te mets dans un passage piétonnier, puis là, t'en as du monde. T'en veux-tu du monde? T'en as du monde. Tant que la police te met pas dehors, mais comme moi, je l'ai déjà fait. Et Et si y a du monde qui s'arrête, mettons, qui sont intéressés, hein, le monde vont dire, ah oui, je vous ai vu, j'étais à telle place, je vous ai vu à Londres, je vous ai vu à telle ville. Et en France, c'est comme ça qu'on faisait, mettons, une ville comme Lyon. Il n'y a pas de temple à Lyon à l'époque quand j'étais là, mais on avait un temple à Paris. Et les gens nous disaient, ah, je vous ai vu à Paris, mettons, à l'Opéra de Paris ou la Tour Eiffel ou whatever. Ça, c'est parce qu'ils ont entendu, leur âme a retenu, ah, j'ai vu des dévots, j'ai entendu Hare Krishna.
C'est une bombe à retardement.
Pardon?
Une bombe à retardement, ça explose un jour ou l'autre dans la tête de quelqu'un, là.
Exactement, parce que leur âme a retenu, a enregistré, je l'ai vu, je les ai vus, et ça a un effet sur les personnes. Alors, comme aujourd'hui...
Ouais.
Attends, donne-moi une seconde.
Oui.
Dans les années 70, jusqu'à quel point le végétalisme était populaire? Pas vraiment. Mais aujourd'hui, végétalisme, beaucoup de choses sont expressément végétariennes ou identifiées comme végétariennes. Va à l'épicerie, mais n'importe où, ça va être écrit dessus, végétarien. Et ça, c'est à cause des dévots. Les dévots ont poussé dans la société le concept du végétalisme. Et que faut-il dire de vegan? Ça, vegan, les dévots, en fait, quand ils disent... Moi, ça me dépasse, ça aussi. Quand ils font des annonces, là, c'est marqué « a feast, vegan ». On n'en a rien. En tout cas, personnellement, là, je ne veux pas offenser personne. Mais on n'est pas pour végétarien, tout court. On n'est pas pour vegan, tout court. Nous, on est pour le prasadam, la nourriture offerte à Krishna. Alors, ça peut être mis superficiellement, un bon festin végétarien, un bon festin vegan, pour aller chercher ce public-là. Mais dans le fond, du fond, là, la vraie chose, c'est parce que c'est prasad, c'est offert à Krishna. Oui, il y avait quelques commentaires.
Je voulais juste revenir parce que moi, c'est des causes quand j'étais beaucoup plus jeune, parce que j'étais végétarienne avant de je mangeais un peu de poisson, mais ouais. La viande, tout ce qui était terrestre, j'avais depuis adolescente, j'avais parce que je me battais contre la souffrance animale et le fait qu'on considère pas les animaux comme des êtres vivants à part entière. Et donc, je pense que justement, comme tu disais, le mouvement de ISKCON accompagné par cette volonté aussi, par indirectement aussi beaucoup de qui viennent de comment on appelle ça, le bouddhisme, tu vois, dans le sens où pour arriver à ce qu'une partie de l'humanité, même si elle est profane, mais que l'étape de la souffrance animale et qu'on arrête de traiter les animaux comme on les traite, parce que plus on va, plus c'est abominable ce qu'on fait souffrir aux animaux aujourd'hui. Ah, ou aussi cet extrémisme dans le véganisme où il faut pas qu'il y ait rien d'animal, c'est-à-dire nous on consomme du lait, mais en fait pour eux la vache est tellement maltraitée, même pour produire du lait, qu'ils arrêtent de consommer du lait en fait. Et c'est pareil pour tout ce qui vient de l'animal. On ne touche rien. C'est des philosophies de vie que j'ai vu émerger. Et aujourd'hui, tant bien que mal, ben ça participe aussi à faire comprendre des fois le côté de l'animal au-delà de que c'est un animal. Mais il est comme nous, il a une âme. Et c'est des approches qu'on peut avoir avec des gens qui sont déjà engagés dans cette lutte acharnée pour la souffrance animale. Ils comprennent plus facilement en fait le concept de l'âme, puisqu'ils te disent quand tu regardes un animal, il n'y a pas de différence entre son regard et ton regard. Ben justement, parce qu'il y a un être vivant. C'est un être vivant avant d'être une carcasse qui va être découpée, quoi, en fait. Voilà. Je voulais juste apporter ça parce que j'ai pas mal milité, entre guillemets, dans mes jeunes années là-dessus, quoi.
Ouais.
Je voulais rentrer la bombe à retardement qu'elle m'a explosé, moi aussi, avec le temps. je travaillais sur Sainte-Catherine dans le temps, puis je voyais les dévots passer. Je leur disais, pourquoi ils cherchent pas un job, là? Regarde les autres, là. Tu sais, ils font rien, là. Hare Krishna, Hare Krishna. Puis avec le temps, ben, ça va pas dire.
Ouais. Ils font un autre job que les gens ne comprennent pas. C'est un job de missionnaire.
Ouais.
Ça prend son temps.
Exactement.
Ouais, sauf que la vie qu'on nous impose aujourd'hui, où justement depuis les plus jeunes âges, on fait comprendre à des êtres vivants qu'il faut aller avoir un travail pour avoir de l'argent pour consommer, avoir un travail pour avoir de l'argent et consommer, et arriver pratiquement à la fin de son existence terrestre avec cet état d'esprit pour après pouvoir consommer l'argent qu'on aura épargné. Ben, non mais on vit dans un monde qui est complètement fou quand on le regarde un peu avec un peu de hauteur. Hein. Donc ça rejoint ce que tu dis, Madame Ananda. Il faut aujourd'hui. On n'est pas fait pour ne rien faire, mais en fait, on n'est pas fait non plus pour travailler à servir Maya comme ça. Quoi.
C'est ça. Mais c'est pour
moi,
c'est
ça la fréquence abandonne Krishna.
C'est pour ça que, comme on disait tantôt, dépendant de l'âge de la personne, les priorités vont varier. Mais si tu allais vers la fin de ta vie, ben, la priorité devrait être, il devrait y avoir une part de,
plus grande.
Une part de d'être concerné, à savoir où est-ce que je m'en vais après cette vie-là. Il faut préparer la vie suivante.
C'est quoi la suite?
Exactement. C'est quoi la suite? Alors, heureusement, avec la conscience de Krishna, il y a une suite. Et ça pourra continuer par la grâce de Krishna, mais ça prend vraiment la grâce de Krishna pour ça. OK, alors.